Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Isabelle Jobbasile, directrice des études économiques de Crédit Agricole. De Crédit Agricole SA. Christian Deboissieu, professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes. Et Augustin Landier, professeur à HEC, co-auteur du prix de nos valeurs, quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels, chez Flammarion. Code d'alerte. Alors, il y a eu Bourlange qui a dit la limite du tolérable. Oui, bon, non. Mais restons sur la code d'alerte.
Alors, moi, je ne suis pas nécessairement code d'alerte, mais plutôt, effectivement, alerte. C'est simplement, on s'était un peu endormi. Pendant des années, on a vécu, on n'avait pas d'inflation, on avait des taux à zéro, voire des taux négatifs. Il faut se rappeler qu'il y a fut une période, l'État français s'endettait à taux négatifs sur une maturité de 10 ans.
Il se faisait payer, oui,
voilà. Pour emprunter. Il y a un an, les taux étaient encore à zéro. À 10 ans, l'État français émettait des taux d'intérêt à zéro. On est passé en quelques semaines à 2%. Donc aujourd'hui, l'État s'endette à 2%. Ça reste bas, ça reste bas compte tenu du niveau d'inflation. Ça reste bas.
Taux d'intérêt réel négatif encore aujourd'hui.
Voilà, mais ça veut dire que, et en plus, compte tenu du fait que ce qui est précisé justement par Bruno Le Maire, la bosse d'inflation, elle risque d'être plus longue à dégonfler, on va rester avec une inflation plus élevée. On a des raisons de croire que même à moyen long terme, on a quand même changé de paradigme et on va avoir un peu plus d'inflation. On va revenir peut-être dans l'ancien monde. Simplement, on avait oublié qu'il y a eu un ancien monde où il y avait de l'inflation, plus d'inflation, et donc des taux d'intérêt plus élevés. Or, une dynamique d'endettement, ce qui détermine cette dynamique, c'est votre écart entre le taux de croissance et le taux d'intérêt.
Si donc, le taux d'intérêt dépasse la croissance, c'est là où les choses
arrivent. On a ce qu'on appelle un effet boule de neige, donc qui fait que vous perdez un peu le contrôle sur l'augmentation de votre dette. Alors, on n'est pas du tout dans cette situation. Si vous vous dites que, on l'a dit tout à l'heure, la croissance potentielle, elle est entre 1 et 1,5 et l'inflation autour de 2, ça veut dire tant que les taux ne sont pas au-delà de 3,5. La question de la soutenabilité n'est pas encore totalement posée. Mais on est quand même dans une dynamique où on voit les taux d'intérêt remonter. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir probablement davantage se discipliner au niveau budgétaire.
Et il vaut mieux parler de ça avant que les choses n'arrivent. Le jour où on est au 3,5, c'est un peu trop tard.
C'est un peu trop tard. Donc, il vaut mieux se préparer.
C'est important de s'arrêter sur ces termes. Parce que souvenez-vous, pendant des années, on nous a dit vous passez 90% de dette par rapport au PIB, vous êtes mort. Et puis, finalement, c'était une estimation américaine qui a été complètement.
Rogoff et Reinhardt qui avaient fixé ce seuil de manière un peu arbitraire.
Alors
regardez, est-ce qu'on est au-dessus de 90? En France, on est au-dessus de 90.
Et en plus, ils s'étaient trompés dans le tableau Excel.
Je
voudrais faire une remarque sur la question de la maîtrise des dépenses publiques. Excusez-moi, parce que c'est aussi le sujet sur la cote d'alerte.
Ah ben bien sûr.
Dans le contexte qu'Isabelle vient de rappeler, les charges d'intérêt vont augmenter, à la fois pour le public et pour le secteur privé. Moi, je n'oublie pas les problèmes de dette privée.
Je suis d'accord.
Ils sont très importants également. Bon, mais je reviens aux finances publiques. Il y a des secteurs qu'il faut augmenter. Dans le contexte géopolitique, le budget de défense, il faut l'augmenter. On va augmenter légitimement les fonctionnaires dans un certain nombre de secteurs, l'éducation, les hôpitaux, etc. Où est-ce qu'on va trouver des marges de manœuvre pour, en quelque sorte, baisser les dépenses. Ça rejoint un débat qu'on aborde souvent autour de votre table, qui est, au fond, la question de l'efficacité ou pas des dépenses publiques. Est-ce qu'on a les moyens...
C'est un débat qui me désespère.
Ça fait 20 ans qu'on en parle. On a fait des tas de commissions successives qui ont débouché sur des tas de rapports qui ont débouché sur rien. Le dernier en date étant le sous Édouard Philippe, Premier ministre, le fameux Cap 22, vous savez qu'on était... qui a été publié par Bonnefeuille, mais ici ou là. Donc, moi, je sais pas comment on va pouvoir baisser... Alors, sur les dépenses publiques, il y a aussi les collectivités locales et la sécurité sociale. Je vous dis pas, dans une optique européenne, il y a les trois étages de la fusée. État, collectivité locale, sécu, mais... Je ne sais pas comment on peut aborder, et il faut l'aborder, la question de la maîtrise des dépenses publiques dans le monde que j'ai appelé le monde de demain.
Et surtout qu'il faut créer des espaces pour pouvoir investir massivement. On sait qu'on a des investissements massifs à faire. Alors bien évidemment, c'est pas que le public, c'est pas que à l'échelle française, mais c'est aussi à l'échelle européenne. Mais on sait qu'on a des enjeux majeurs. Enfin, les chiffres sont vertigineux de ce qu'on doit investir pour cette transition énergétique.
4 points de PIB par an sur le
vert,
par
exemple. Oui, c'est ça. Il faut quasiment doubler les investissements. Une partie sera quand même portée par l'État.
Un jour, il faudra quand même qu'on réussisse à avoir collectivement, au niveau national, ce débat sur l'efficacité, bien sûr, mais il est clair que malgré la question de l'efficacité, il va falloir la baisser, cette dépense publique. Et quand on dit la baisser, c'est pas aller supprimer 3 comités Théodule pour baisser de 800 millions d'euros.
Si on supprime quelques comités Théodule,
on en crée un, le nouveau Conseil national de la refondation.
Attendez, mais celui-là, il a du plomb dans l'aile, non?
Déjà? J'ai pas vu. Vous voyez que le CNR ne verra pas le jour?
J'ai vu que le lendemain des législatives...
On n'en parle plus, en tout cas.
C'est vrai qu'on n'en parle plus. Non, c'est de la grosse com' politique. Il fallait trouver un truc qui fasse CNR. Donc on s'est dit, Conseil national de quoi? Donc c'est la refondation.
C'est de la com' qui ne marche pas. C'est ça qui est curieux, en fait. C'est que ça marche. C'est pas tellement dans...
Vous me dites, Augustin, qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis.
Oui, c'est un peu ça.
C'était dit subtilement, mais on a tous compris. Hein.
J'aime bien, oui. Oui, c'est clair que ça ne fonctionne pas. Bon, Sintra, j'ai du mal à être indulgent, là, Augustin Landier. Janet Yellen, je me suis trompé. Jay Powell, je me suis trompé. Tout le monde s'est planté. C'est leur boulot.
Ouais,
ils sont bardés d'économistes de haut niveau. Ce ne sont pas des gens incompétents, les gens qui sont dans les banques centrales. Là, tout le monde tombe de sa chaise. Or, on n'a pas vu qu'on avait fait une incroyable politique ultra accommodante et qu'on avait totalement inondé le monde de liquidités. Or, on n'a pas imaginé qu'un jour, la bonne vieille théorie quantitative de la monnaie pourrait se réveiller. Or, on n'a pas vu que l'inflation était de retour et que potentiellement, elle n'était pas là pour un trimestre. Ouais.
Non, ce qui est un petit peu curieux, c'est... ce mea culpa, parce qu'au fond, je pense que dans le discours qui précédait, il y avait cette idée que c'était asymétrique, que finalement, il valait mieux se tromper... dans le sens de ne pas augmenter les taux trop vite plutôt que trop lentement. Et donc là, effectivement, c'est bien ce qui s'est produit. On augmente les taux un peu avec un temps de retard. Mais il devrait assumer en fait le fait que, effectivement, on est dans un des scénarios qui était possible. Enfin, ce qui est curieux, c'est que le discours ne soit pas plus élaboré. C'est-à-dire qu'on attendrait des banquiers centraux qu'ils aident les gens à réfléchir au fait que, ex post, on est dans un monde qui était un des mondes possibles il y a 2 ans. C'était pas écrit avec certitude. C'était un des scénarios qu'ils devaient envisager, je pense qu'ils l'avaient envisagé, et que du coup, ils y réagissent, et que la raison pour laquelle ils n'ont pas réagi plus tôt, c'est que ça aurait été coûteux d'agir trop tôt. Donc voilà, je suis curieux qu'ils n'assument... Enfin, étonné plutôt qu'ils n'assument pas plus, en fait, le fait qu'ils ont choisi d'agir avec retard pour s'assurer de savoir dans quel monde on était. Et puis l'autre chose, c'est en revanche sur l'Ukraine. L'Ukraine n'était pas un choc non anticipé. C'était un des scénarios, je me souviens très bien, en décembre, c'était considéré comme un événement de probabilité au moins 30%. Donc ça faisait partie des scénarios qu'un banquier central devait avoir en tête, un très gros choc énergétique. Donc là aussi, il devrait montrer qu'au contraire, ça faisait partie des scénarios possibles.
Pardon,
c'est terminé déjà, on s'en va.
C'est la cote d'alerte. Oui, mais bon, il y a un moment où la faillite des experts, il y a des limites, quoi. J'ai un peu du mal à être indulgent. Parce que le débat,
tu vas pas être indulgent avec nous.
Non, parce que le débat.
Parce qu'on a fait l'erreur aussi collectivement.
Pas tous. On en parle depuis un an et demi de l'inflation et de temporaire, pas temporaire. Il y avait quand même. Comme vous le dites, pas mal d'éléments consécutifs.
Quelle inflation temporaire, pas temporaire, à quel niveau? Et puis après, je reviendrai sur le sujet.
Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Est-ce que tout ça était prévisible? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Augustin. Je pense quand même que la guerre en Ukraine était imprévisible.
Ah mais non, mais alors ça, je te garantis, en décembre, tu vas sur Bloomberg, tu verras, ça fait partie des scénarios.
Alors, tu as dit 30%, disons peu prévisible. C'était compliqué, à mon avis, pour les banques centrales d'intégrer ça, je trouve. On leur dit, voilà ce que je pense. Donc, attends, moi, je suis pas banquier central. Je cherche pas à les défendre coûte que coûte. Je dis simplement, est-ce que les marchés avaient prévu la guerre en Ukraine? Pas plus que la plupart des banquiers centraux, pas plus que les banques. Le FMI, je veux dire, on vit dans un monde, excusez-moi de le dire, où quand vous prenez les grandes crises depuis 30 ans, Alors, il y a eu beaucoup de crises financières qui n'ont pas été prévues, mais là, l'Ukraine, au départ, ce n'est pas une crise financière, ça a des conséquences financières. On n'arrive pas à prévoir les crises. Les chocs comme ça, c'est très compliqué.
Il y a des incertitudes, c'est-à-dire que tu ne peux pas les prévoir avec probabilité 1, mais il y a une probabilité. Je ne sais pas, Taïwan aujourd'hui, pour quelle probabilité ? Ce n'est pas zéro. Donc.
Deuxièmement.
Très bon exemple.
Il y a un deuxième sujet, c'est est-ce que les banques centrales. N'ayant pas prévu la guerre en Ukraine, on réagit suffisamment vite. C'est le deuxième sujet. C'est le problème du tempo du resserrement monétaire.
Timing is crucial.
Bon, la Fed a été réactive. Bon, alors peut-être parce que l'économie américaine se porte mieux que la nôtre, le taux de chômage est plus bas aux États-Unis que dans la zone euro en moyenne, etc. Il y a des raisons. La BCE... a trop tardé. Alors, par rapport à ce débat, effectivement, choisir entre deux mots, on est dans un contexte de stagflation, est-ce qu'il faut resserrer vite pour calmer l'inflation, la faire baisser et revenir à l'objectif de la Banque centrale ? On en est très loin aujourd'hui. La BCE, c'est être proche de 2 et inférieur à 2% en moyenne. Bon, on en est loin, vous le savez, puisque dans la moyenne, dans la zone euro, on est à 8, hein, autour de 8.
À peu près, ouais.
Si je caricature ou si je résume. Bon, donc, voilà, moi je pense que la BCE a trop tardé, que ça fragilise un peu la gouvernance de la Banque Centrale Européenne. Bon, vous allez dire, bon, on peut taper sur les experts dont nous essayons de faire partie les uns les autres. Les experts se sont trompés, les banques se sont trompées, les organismes internationaux se sont trompés, les agences de notation se sont trompées. C'est un peu le monde dans lequel on vit, je veux dire, voilà. Alors, mea culpa, je trouve, et je termine en disant, je trouve comme... Augustin, tu vois, ça, je suis d'accord avec toi, souvent. ça m'arrive. Donc, je trouve que la manière dont les banquiers centraux se retrouvent et convergent à Sintra, au Portugal, ces jours-ci, en disant... C'est à la fois sympa de dire, bah oui, on s'est peut-être trompé. Et en même temps, ça camoufle des divergences entre les pays, parce que, je répète, la Fed a été beaucoup plus réactive que la BCE. La Fed et la Banque d'Angleterre, et puis quelques autres banques centrales.
Bon, votre lecture, Isabelle Job-Basile, de ce Jackson Hole européen.
Non, mais le fait est, quand on est dans des bascules de régime, on a du mal à les voir. Mais comme ça a été le cas pendant des années des banques centrales, lorsqu'on était ce qu'on appelait la stagnation séculaire, l'inflation zéro, enfin tout le phénomène, il nous disait que en fait l'inflation très basse, ce n'était que temporaire et qu'il fallait se préparer à une nouvelle à l'inflation qui revienne.
Et d'ailleurs, je te baisse les taux pour la faire revenir.
Voilà, sur les écrans radars. Donc on a vécu très longtemps sans inflation et là effectivement multiples chocs qui font que l'inflation augmente et donc je pense qu'on a du mal voilà, collectivement à se dire quand dans ces moments de rupture, de bascule de régime, on a du mal à se dire que c'est peut-être plus durable que ce qu'on avait imaginé précédemment. Je pense que la Fed, mais je pense que tous les experts, on ne peut pas imaginer tous les états du monde. Donc c'est vrai qu'on probabilise, voilà, on probabilise, etc. Sauf que quand vous communiquez, la plupart du temps, sur quoi vous communiquez, votre scénario central. Et donc le scénario central n'était pas effectivement celui de la guerre en Ukraine.
Pas communiquer sur 25 scénarios quand on est.
Non, mais ça veut dire que ça. Moi, je pense que c'est la mort du scénario central. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, dans un univers aussi incertain dans lequel on vit aujourd'hui, on ne peut plus parler de scénario central. Parce qu'un scénario central, c'est que vous lui donnez une très forte probabilité de réalisation. Or, aujourd'hui, malheureusement, vous avez des scénarios alternatifs qui ont une probabilité qui s'en rapproche.
Non, entièrement d'accord. On attendrait des banques centrales qu'elles organisent, justement.
Voilà, et donc il faut organiser, mais je pense collectivement, toute l'expertise, un peu différemment de ce qu'on faisait jusqu'à présent.
La Banque de France vient de faire des prévisions avec un scénario central.
Oui. Non. Et dernièrement, moi, je ne suis pas d'accord sur la Fed. La Fed a réagi plus rapidement, tout simplement parce qu'elle ne fait pas face au même problème d'inflation. Aux États-Unis, vous avez eu un problème de surchauffe économique Voilà. Si vous regardez en Europe, on a encore les niveaux de consommation sont inférieurs à ceux de la fin 2019. On n'est pas du tout dans un contexte d'excès de demande comme on peut avoir aux États-Unis. Donc il est normal que les États-Unis aillent plus vite, plus fort par rapport à une BCE. Enfin, quoi qu'il en soit, enfin, je veux dire, elle aura beau remonter ses taux d'intérêt, ça va pas faire levier sur les prix des matières premières.
En plus, il y a un temps de latence entre
et,
une
et que de taux on n'a déjà pas retrouvé sur certains composantes d'activité, puisqu'on était à peine on avait retrouvé le niveau de 2019. Donc, se retrouver en récession à partir d'un niveau qui était, enfin voilà, qui est celui simplement de 2019, qu'on a vraiment perdu déjà trois années de croissance, ça semble un peu bizarre. En revanche, qu'elles doivent agir pour contrôler les anticipations, pour éviter que se mette en place une boucle prix-salaire, etc. Oui, que bien évidemment, elle a les moyens de le faire parce qu'elle peut remonter ses taux et conserver des taux réels négatifs. Donc, ça veut dire que les conditions monétaires et financières vont rester relativement souples. Oui, ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas agir. Mais en tout cas, on n'est pas, à mon avis, on n'est pas quand même dans la même...
On a pris le pari avec Christian ce matin qu'elle ferait du 25 points de passe en juillet et du 50 en
oui,
septembre.
Oui, probablement.
Non, mais Isabelle, oui. Je suis d'accord avec Isabelle qui n'est pas d'accord avec moi.
Parce que,
parce que j'ai bien souligné tout à l'heure la différence de conjoncture. Oui. Et j'ai dit la Fed est réactive parce que la conjoncture n'est pas la même. Ils ont
un taux c'est même surchauffe.
Ils ont un taux de chômage beaucoup plus bas.
Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas remonté. Enfin, la politique intelligente qu'auraient pu faire les États-Unis, c'est certes remonter un peu les taux, puisque c'est quand même l'objectif de la Banque centrale de contrôler l'inflation, mais aussi de remonter un peu les impôts, de reprendre un peu le trop-plein qu'ils avaient versé pendant toute cette période.
Ce qui va être intéressant, excusez-moi, pour évoquer un sujet dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, et qui est lié à ce même sujet, c'est l'impact taux de change. C'est
oui, ça change.
Dans quelle mesure la différence de réactivité... Alors, pour l'instant, l'euro a, depuis quelques mois... plutôt baissé par rapport au dollar.
Mais on est à 0,5 à peu près.
0,4, 0,5, je ne suis pas inquiet. Mais dans les mois qui viennent, est-ce que le fait que la BCE va chercher un peu à rattraper son retard, résume comme ça, avec 50 points de base probables en septembre, est-ce que, même si la Fed va continuer en attendant, elle nous attend pas, la Réserve fédérale. Quel est l'effet taux de change? Je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, parler du problème du taux de change.
Oui, oui, parce que le taux de change, en l'occurrence, c'est de l'inflation importée, hein, quand ça se déprécie.
On est bien d'accord.
Donc ça fait partie de l'objectif de la Banque centrale, de ne pas être en retard complètement par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, pour ne pas avoir une dépréciation telle qu'on va avoir, en plus de l'inflation, de la crise énergétique, etc., une inflation importée.
Il y a des mauvaises langues qui disent que, par l'arme des taux, en fait, les banques centrales se font une guerre d'échange aussi.
Oui, mais la guerre d'échange, c'est pas dans ce sens-là.
Oui,
la guerre d'échange, c'est plutôt l'inverse. C'est on cherche à déprécier sa monnaie regagner de la compétitivité.
Ça dépend quel pays on est, à quel moment on se situe. Et nous, en l'occurrence, on aurait plutôt l'intérêt à l'avoir un peu plus élevé, notre euro.
Oui,
parce que le fait de remonter les taux, vous faites remonter l'euro et vous freinez l'inflation. Oui. Bon, j'ai des gens, ils considèrent que les banques centrales sont dans leur mandat. On leur dit au-delà de 2%, vous montez vos taux. Elles le font, c'est normal. Voilà. Bon. Est-ce que vous arrivez à saisir ce que pourrait être l'outil anti-fragmentation, Augustin?
Non, il est paradoxal. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'à la fois, on a besoin du signal prix pour que les gouvernements et que Bruno Le Maire puissent dire « Oui, vraiment, j'étais optimiste, mais maintenant, les marchés, eux, s'inquiètent, donc on doit agir. » Donc, si on n'a pas ce signal à un moment, ça va être dur pour les politiques d'engager les conversations difficiles. Et donc, la BCE se retrouve dans cette situation à nouveau
éviter la mort de l'euro. Elle veut éviter
C'est dans son mandat. C'est dans son mandat.
Dans son mandat d'avoir un outil anti-fragmentation.
Dans son mandat, il faut qu'il y ait une transmission homogène de la politique monétaire.
Ah oui, d'accord, effectivement.
Et donc, c'est comme ça qu'elle va le défendre. Elle ne va pas vous dire que c'est pour soutenabiliser la dette des États, etc. Donc, elle va défendre sur le fait qu'elle veut que son orientation monétaire, se diffuse de manière homogène dans toute la zone euro. Sauf qu'aujourd'hui, on a vu effectivement que dès qu'on a commencé à avoir cette idée de resserrement monétaire ou de normalisation, plutôt normalisation monétaire, les marchés se sont immédiatement commencé à réévaluer les risques de soutenabilité sur un certain nombre de dettes de la zone euro, de pays très endettés, notamment l'Italie. Et donc, ça a fait que les écarts de taux se sont fortement creusés entre les différents pays. Enfin, autant nous, on est autour de 2, mais on a atteint quasiment 4% sur le taux italien.
Ah, on l'a même dépassé à un moment.
Oui,
on est un peu en dessous.
Qu'on sait que la croissance potentielle en Italie, elle est très faible. Certains l'estiment quasiment à zéro. Donc, s'il y avait avec une inflation à 2%. Donc eux, ils se retrouvent avec des taux qui sont supérieurs, hein, qui, potentiellement sur le moyen terme, supérieurs à la croissance nominale. Donc là, oui, il y a eu ces questionnements.
Visiblement, donc, on dit la BCE va vendre de l'allemand pour acheter de l'italien.
Alors, quels sont les problèmes? C'est-à-dire que c'est bien qu'elle s'engage, parce que de toute façon, c'est pas la première fois qu'elle dit qu'elle a aussi comme objectif la lutte contre la fragmentation financière en zone euro. Aujourd'hui, c'est de se dire, elle veut créer un outil. Et là, c'est vrai que le diable est dans les détails.
Ah oui.
C'est-à-dire, c'est la taille, combien on en met, c'est de se dire qui a droit, est-ce qu'il y a une forme de conditionnalité ou pas, à quel niveau on déclenche le mécanisme, c'est quoi des
spreads illégitimes. Je crois que le diable n'est pas dans les détails, il est dans la doctrine, c'est-à-dire que la doctrine est contradictoire au départ, et donc là, la BCE, l'époque du quoi qu'il en coûte de Mario Draghi, enfin le
whatever it takes,
elle est finie, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans une situation où il y avait effectivement ces problèmes de liquidité, simplement il fallait recoordonner les anticipations sur oui, l'euro va traverser cette crise et continuer d'exister après la crise financière. Mais là, aujourd'hui, c'est quand même la pérennité à long terme de la zone qui est en cause. Est-ce que, effectivement, la dette italienne, à un moment, il va falloir remettre les pendules à l'heure et accepter un...
Oui, mais là où Isabelle, à mon avis, a raison, c'est que pour rendre ce dispositif acceptable par l'Europe des buveurs de bière, il va quand même falloir calibrer les agendas, les montants, règles de répartition ou pas règles de répartition.
C'est inévitable qu'il y ait quand même un spread.
Ce qui est super intéressant, c'est que ça va probablement inciter, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ce plan Next Generation EU, vous avez la partie subvention, direct, et puis vous avez une partie de pouvoir avoir accès à des emprunts communs, dans le cadre de ce plan pour financer la transition, etc., qui sont en fait financés avec les conditions financières de l'Europe, de la Commission, qui sont très très bonnes. Et en fait, il y a un tas de pays qui ne voulaient pas y aller jusqu'à présent et dans la configuration de taux actuelle, qui vont avoir intérêt à aller prendre cette partie du plan qui leur permettra d'accéder à cette forme de cette dette commune moins chère.
Mais c'est exactement ton débat sur le scénario central, c'est-à-dire que le scénario central, c'est que l'euro continue, mais on peut pas dire au marché la probabilité que l'euro, que l'Italie fasse défaut est zéro. C'est pas zéro. Le marché est obligé d'essayer de calculer cette probabilité, et donc c'est là qu'il y a une contradiction. Mmh. C'est-à-dire que la BCE fait comme si probabilité 1
mais elle peut pas dire.
Question de Boissieu.
Le studio s'échauffe sur
l'antifragmentation.
Le problème de fragmentation qui est un problème important. Premièrement, c'est pas dans le mandat de la BCE, dans le traité de Maastricht, il y a rien là-dessus.
Non, mais c'est dans
l'interprétation qu'on donne
la Banque Centrale
Européenne. Et l'interprétation, elle peut changer dans le temps. Et de toute façon, les structures financières étant différentes d'un pays de la zone euro à l'autre, la transmission est différente. Vous avez des pays dans lesquels dominent les taux fixes, des pays comme l'Espagne dans lesquels dominent les taux variables. Ça a l'air de rien, mais ça fait que la même politique monétaire de départ décidée à Francfort a des répercussions à l'arrivée qui sont différentes. Deuxième remarque, l'instrument fragmentation dont parlait Isabelle, ça va être du réglage fin et peut-être trop fin, parce qu'il faut être très sélectif. On trouve une politique monétaire sélective au moment où la BCE dit à partir du 1er juillet, c'est-à-dire demain, à partir du 1er juillet, le quantitative easing, les achats de titres sont terminés, je me contente de réinvestir les obligations qui viennent à échéance. Alors là, on peut réinvestir le produit des obligations qui viennent à échéance en achetant de la dette italienne, de la dette grecque, etc. Mais ça va être extrêmement sélectif et je trouve que c'est assez dangereux, politiquement et même financièrement, d'aller dans une politique monétaire qui à la fois se veut global et risque de devenir aussi, je dis bien, sélective. On fait du truc pays par pays. C'est un peu compliqué dans une zone avec une monnaie unique. Alors, on l'a fait au moment de la Grèce.
Oui.
Mais on a mis en place...
Mais là, on avait mis en place un mécanisme.
Le mécanisme
ad hoc,
de stabilité financière. Bon, et on donne de l'argent au MES, au mécanisme européen de stabilité financière, qui prête ensuite. C'est-à-dire, on mutualise. C'est pas direct, c'est indirect.
Non, mais on pourrait faire par d'autres manières. Je suis entièrement d'accord. Mais le fait est... si vous créez de la déconvergence au sein de la zone euro, oui, ça va à un moment donné mettre en danger l'intégrité de la zone euro. Ouais. Donc il y a quand même des enjeux de cette nature. Il y a quand même des enjeux de cette nature. Alors je ne sais pas si c'est le bon instrument, etc. Mais à tout le moins, il faut quand même réfléchir pour éviter qu'on ait ces phénomènes, dans le contexte en plus actuel, d'avoir ces phénomènes de déconvergence.
Il ne faut pas oublier que c'est un peu fragile l'euro. Moi, je me souviens d'une date, c'était un 5 juillet de je ne sais plus quelle année, 2013 ou 2014. Il y avait une réunion importante qui se tenait avec les responsables de la Grèce à Bruxelles, Troïka. On savait qu'en fonction de ce qui allait ressortir de cette réunion, 2014. L'euro pouvait être en risque.
Oui. 2014.
Dans l'heure, 2014, dans l'heure qui suivait.
Mais est-ce que peut-être l'objectif n'est pas de faire du whatever it takes, c'est-à-dire de simplement par la parole, d'essayer de calmer un peu. Alors, malheureusement, en disant qu'on va faire un outil dans l'immédiat, etc., c'est embêtant, parce que derrière, les marchés vont aller tester. Ils vont aller tester la BCE en se disant, c'est pas suffisant, ou c'est, etc., de voir jusqu'à quel point elle est engagée dans son discours. Mais à tout le moins, c'est vrai que de se dire, je veux qu'il y ait une transmission homogène, etc., je ferai quoi qu'il en coûte pour arriver à cet objectif, pourquoi pas? Parce qu'il y a vraiment des enjeux de tiraillement, de grand écart entre les différents pays.
Un petit mot, allez, on a trois minutes. Un petit mot sur la présidence française de l'Union européenne. Christian de Boissieu, vous...
Pas mal, moi...
Il y a une ambiance un peu cocorico ce matin.
Non, moi je ne fais pas de cocorico. Le prof que je suis donne 13 ou 14 sur 20. Je trouve qu'il y a des choses qui ont avancé sur l'énergie, le paquet énergétique, l'accord énergie, dans un contexte très difficile. Hein, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Covid pas fini, l'Ukraine qui arrive. Bon, les 6 mois sont vite passés. Sur le salaire minimum au niveau européen, on va voir ce que ça donne.
C'est pour l'ambiance. Hein. Chaque pays fait ce qu'il veut.
C'est pour l'ambiance. L'Europe de la défense, là aussi, des éléments... à partir de zéro, parce que l'Europe de la défense, c'est pas grand-chose. On a un peu progressé, donc il y a... Et puis, dernier point, dans ce discours de Strasbourg, le président Macron a répété, au fond, cette idée que il faut avancer avec ceux qui le veulent et le peuvent. Alors, il a l'air de dire, on va vers une Europe à géométrie variable. Moi, ma thèse, c'est qu'on n'y va pas, on y est. On est déjà dans une Europe à géométrie variable. Mais c'est cette idée de dire l'unanimité, c'est intolérable, ça nous empêche d'avancer sur le fiscal, sur le social, sur la politique étrangère. Faut trouver la manière de contourner l'unanimité dans un contexte où, formellement, d'après les traités, faut l'unanimité pour lever l'unanimité. C'est le cercle vicieux européen.
C'est fantastique, tous ces traités qu'on passe notre vie, Banque Centrale ou autre, à contourner. Non, on contourne les trucs.
Je termine, Nicolas. On a fait quelques mesures intéressantes et on a ouvert les débats. Maintenant, c'est à la Tchéquie de prendre la suite. On va voir ce que ça donne.
Une 30, une 25 pour conclure.
Moi, je pense que ça a eu le mérite de montrer des sujets sur lesquels... Enfin, montrer que l'Europe est utile, c'est trouver des sujets sur lesquels on serait ridicule si on posait le sujet nationalement tout seul. Donc, sur le climat, par exemple, c'est pas mal la question d'homogénéiser, de donner des standards sur la manière dont les entreprises vont fournir des informations non comptables, enfin, qui rentrent pas dans la comptabilité classique sur leurs émissions carbone, par exemple. Bah, là, effectivement, c'est un sujet sur lequel ça serait ridicule que la France le fasse toute seule. C'est bien au niveau européen, à minima, et puis on espère que ça aurait d'influence. Donc là, c'est des sujets sur lesquels on voit bien l'utilité, en fait, de faire bloc. Et donc, finalement, je trouve que le mandat de la France a servi un peu à ça aussi, à essayer d'aligner un certain nombre de sujets où on voit l'utilité de faire bloc.
Et puis bon, il aura aussi bénéficié, peut-être parce qu'il était là au bon moment, le président de la République, de ces nouvelles armes anti-GAFA qui ne reposent plus exclusivement sur la politique de la concurrence, mais qui essayent d'agir en amont. Un mot à rajouter, Isabelle Jobazil?
Non, mais je pense que c'est bien de mettre des sujets, effectivement, qui valent le coup d'être abordés à l'échelle européenne. Je pense que ça replace aussi les grands sujets qui vont nous accompagner, hein, qui vont façonner le monde de demain, etc. Et de se dire que la bonne échelle à laquelle on doit penser ces sujets-là, c'est effectivement l'échelle européenne.
Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui, Isabelle Jobazil, Christian de Boissieu, Augustin Landier. On est jeudi, oui, on se retrouve bien demain à 9h.